Allô tout le monde, comment ça va ce matin? On est le vendredi, c'est le 8 janvier 2021. Vous êtes dans GFP en direct. Ah, j'ai fait du zapping radio. Oh, que le ridicule ne tue pas sur certaines fréquences. Le ridicule ne tue pas. Des gens qui chient sur Québécois, en Waydon, de la bullshit. Ah, mais ils devraient s'écouter. Hey, on va leur acheter un miroir, un grand, grand miroir. Tu regardes dans le miroir, les deux piques. Ça n'a pas de bon sens. Comment allez-vous ce matin? Vous êtes dans GFP en direct. Et c'est Georges Fermant-Poirier qui vous accompagne jusqu'à 10h ce matin avec un beau soleil et une belle température. C'est ce qu'on annonce pour le week-end, pour la fin de semaine. Du beau temps. N'oubliez pas, là, le ridicule n'a jamais tué. En écoutant ce que j'ai entendu tantôt, là, du défécage tout le temps sur Québécois, voyons donc, écoutez-vous donc, puis regardez-vous dans le miroir. C'est incroyable ce qu'on peut entendre. Ben, tu sais, il y a un piton qui change de poste. T'sais, c'est comme moi, si vous n'aimez pas écouter GFP en direct, changez de poste. Hein. Mais c'est pareil, quand vous écoutez de la salade merdique, comme j'ai entendu tantôt, ben, tu payes sur le piton, tu changes de poste. Pas plus compliqué que ça. Tu sais, des petits embourgeoisés là, qui arrivent de nulle part, là. Tu sais, des petits-fils à papa là, qui sont en onde. C'est pas ça qui manque, là. À Québec, en tout cas. Des petits-fils à papa, ben oui. Soit que leur père est à police, leur père est un politicien, soit que leur père... tu sais, c'est des fils à papa, là, tu sais. On pourrait vous nommer des noms, mais on va laisser faire. Quand c'est pas des fils de police, c'est des ils sont rendus avocats. Quand ils sont pas avocats, des anciens fils de profs puis de politiciens, tu sais, ça arrive de nulle part, tu sais, c'est des fainéants. On appelle ça des fainéants, des grands fainéants. We'll be right back.
celui qui chante retrouve la vie, puis retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose n'importe au-dessus de tout. Celui qui chante, 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 celui qui chante.
Eh oui, c'est Georges Fernand-Poirier en onde sur la web radio de Québec, radiofiatlux.ca, la radio indépendante, centre-ville de Québec. Je vous souhaite la bienvenue puis une bonne année. Avec un beau soleil comme ça, là, c'est le best, the best. Comme disent les franglos sur nos antennes, the best. Dans GFP en direct jusqu'à 10h ce matin. Bonne vieille toune de David Bowie. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. .tk. Si ce matin, si je vous parlais de censure, vous savez que ça existe. On vit une situation qui est sans précédent. On va être confiné à partir de demain pendant un mois de temps. Alors, il va être interdit de sortir entre 8h le soir, 20h le soir et 5h du matin. Et si on parle de censure et on parle de démagogues, les démagogues qui sont au micro, à la radio, sur les ondes à Québec, il y en a plusieurs. Ces gens-là, c'est-tu normal de... Tu zappes un poste de radio, puis le gars, il défecte sur un fleuron québécois qui s'appelle Québécois. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que ça cesse, ça. C'est comme un genre de harcèlement. Ces gens-là vont devoir apprendre à se regarder dans un miroir, puis à s'écouter, à écouter leur air check, à écouter les commentaires, à écouter la plèbe. Je suis pas sûr que la plèbe est d'accord à 100% avec des sans-génies comme ça, qui ont pas de solution, puis qui sont pas capables de comprendre qu'on vit dans une pandémie majeure, une pandémie qu'on n'a pas vue depuis un siècle, je le répète. Et si je voulais vous parler de censure, voici à quoi ressemble la censure en temps de guerre. La censure peut aussi servir à cacher des informations importantes ou à faire disparaître des preuves. C'est d'ailleurs ce qui se produit régulièrement quand il y a des guerres. Souvent, l'armée ne veut pas qu'on sache tout ce qui se passe dans une guerre, car elle peut montrer une image positive et cacher les atrocités. Elle tente donc de contrôler les informations. Par exemple, pendant un conflit entre les États-Unis et la Russie dans les années 50, qui s'appelait la guerre froide, il est interdit d'avoir des livres dans les bibliothèques des États-Unis sur la Russie ou sur son système politique. Le communisme, les États-Unis essayaient de contrôler ce que la population pouvait savoir sur le conflit. Est-ce qu'on va devoir adopter la même chose? Moi, j'ai comme un livre avec un radio, avec une antenne, puis il y a comme une croix blanche sur le haut-parleur. Ça, c'est tiré de du magazine... attendez un petit peu, comment qu'il appelait ça? Nouveau magazine par et pour les jeunes, ça s'appelle Tapage. Et dans l'édition de printemps 2012, on a un dossier spécial sur la censure. Alors, la censure, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Faut-il, ce qui est biffé, accepter la censure? Dans certains cas, elle est nécessaire. Dans d'autres, elle doit être, ça c'est biffé, dénoncé. Mais alors, à quel moment la censure la censure est-elle positive ou négative? La censure, qu'est-ce que c'est? La censure est exercée par des groupes de personnes qui cachent, interdisent et suppriment des informations. Des individus se servent de la censure pour en influencer d'autres. Par exemple, dans certaines écoles aux États-Unis, il est interdit d'enseigner aux élèves que l'homme descend du singe. Les groupes religieux obligent les écoles à enseigner que les hommes descendent d'Adam et Ève, comme c'est écrit dans la Bible. La censure peut être utilisée sous différentes formes. Et elle l'est quand j'écoutais ce matin des gens qui peuvent pas s'exprimer, des gros démagogues en onde, c'est pas ça qui manque. Alors, vous écoutez GFP en direct, mais c'est le fun aussi d'avoir l'opinion contraire, ce qui devient de plus en plus rarissime. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, la radio indépendante, en direct du centre-ville de Québec. Si vous avez des commentaires, vous voulez m'écrire, c'est pas compliqué, Georges avec un S, fernandpoirier@ymail.com ou 581-986-4472. Right. Picking up the pieces, throwing them away. Alors, dans quelques instants, on va faire un petit survol de l'actualité. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, point TK dans l'émission GFP en direct. Et c'est Georges Fernand Poirier qui persiste et signe et qui vous accompagne jusqu'à 22h ce matin avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Et il fait beau ce matin, profitez-en. C'est le temps de faire de la raquette, peut-être du ski de fond. Prendre de l'air, ça fait du bien, c'est bon pour la santé.
Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps.
Alors, malgré que je me suis levé en retard un petit peu ce matin, 15 minutes avant le show, ben je vous accompagne. C'est l'heure des informations dans quelques secondes. Faut surtout pas se décourager, malgré que c'est pas facile, ça sera pas facile pour plusieurs. Faut être résilient, faut se relever les manches. Comme disait mon père et mon grand-père, système D. Avec le système D, on va les avoir. Vous savez c'est quoi le système D? Eh oui, vous êtes dans GFP en direct. En cette belle journée qui s'annonce, les fêtes sont passées, sont derrière nous. Maintenant, on repart en neuf, une nouvelle année. Maintenant, je vais aller chercher mes informations, etc. Bon, il y a un texte de Luc Laliberté qui semble intéressant. C'est le départ de Trump qui ne réglerait rien. En 1986, le journaliste Neil Sheehan publiait « L'innocence perdue ». Un Américain au Vietnam, l'auteur y explique mieux que quiconque l'éveil de la population américaine aux atrocités de la guerre, aux mensonges des administrations successives, ainsi qu'aux tentatives de dissimulation. Probablement par déformation professionnelle, c'est à ce titre que j'ai immédiatement pensé en assistant hébété à l'assaut des manifestants sur le Capitole dans la journée de mercredi. Mais ce texte-là a peut-être été écrit après, mais je pense que si on a regardé les médias, ce qui est, je pense que Donald Trump a quand même fait son mea culpa, dans ce sens que si vous avez écouté le message qui était carrément à l'inverse de ce qu'il disait antécédemment, je pense que il y a matière à réflexion. Mettons. On parle également à Montréal, il y a une action collective, une victime d'un viol réclame 600 millions à Pornhub. Alors, c'est un gars qui a fait beaucoup d'argent, qui se fait construire une maison, pendant que le site de vidéo Pornhub est dans la tourmente. L'un de ses propriétaires, Ferra Antoun, se fait construire un palace dans l'arrondissement montréalais d'Ansix, Quartierville, sur des terrains achetés pour 2,3 millions de dollars. Le gars, il se fait construire un palais. J'ai l'impression que le ministère du Revenu doit être à l'affût de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette gang-là qui font de l'argent. Mais faut pas être contre ceux qui font de l'argent, mais quand c'est fait malhonnêtement, c'est une autre paire de manches. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? Il fait 0 degré présentement. Ce qu'on annonce, c'est du beau temps. On parle de l'application du couvre-feu au Québec, qui peut être dans la rue après 20 heures. Alors, on en a parlé un petit peu. Alors, les citoyens interceptés par des policiers entre 20h et 5h du matin, à partir de samedi, devront justifier leur présence dans la rue sous peine de recevoir une amende de 1 000 $ à 6 000 $. Mais moi, je comprends pas, là, l'échelle entre 1 000 puis 6 000. Qu'est-ce qu'il faut que tu aies fait pour en arriver jusqu'à un ticket ou un contravention de 6 000 $? C'est la gradation, là, des montants. C'est bien qu'il y en a plusieurs qui payeront jamais ça, puis les prisons vont se remplir. Alors, les gouvernements ont dû penser à trouver des places pour... je sais qu'il y avait l'aréna, là, dans le bout de la Malbaie qui avait été construit. Souvenez-vous du G7, là. Il avait pris l'aréna de la Malbaie dans ce coin-là pour construire une prison. Alors ça va peut-être servir pour incarcérer les gens qui payeront pas leur amende. On verra bien. On aura plus d'informations là-dessus. Donc, va falloir s'acclimater. Le vaccin efficace, qu'on parle de souches britanniques et sud-africaines. Le vaccin biotech Pfizer neutralise une mutation des variantes britanniques et sud-africaines. Alors, une nouvelle qui nous vient de Berlin. Le vaccin contre la COVID de BioNTech Pfizer semble efficace contre une mutation clé des variantes britanniques et à sud-africains du coronavirus, selon le résultat des travaux communiqués vendredi par le laboratoire BioNTech. Alors, on parle des anticorps des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 neutralise efficacement le SARS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans deux souches hautement transmissibles identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, indique le laboratoire dans un communiqué. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles malgré tout à travers tout ça. Il faut essayer de pas s'en faire, d'être résilient, d'accepter l'inacceptable, en fait. On parle d'explosion des cas de COVID-19 par thé suspecté sur la rive sud. La santé publique est de plus en plus confrontée à un manque de collaboration des personnes infectées. La santé publique de Chaudière-Appalaches soupçonne fortement que des rassemblements privés pendant les fêtes se cachent derrière l'explosion récente des cas de COVID sur son territoire, mais elle ne peut en être certaine en raison du manque de collaboration venant des personnes infectées. La Chaudière-Appalaches a enregistré la semaine dernière 758 nouveaux cas de COVID, un record sur une période de 16 jours. Lundi, elle a atteint un sommet inégalé de 178 nouvelles infections en 24 heures. Alors, depuis, la courbe de transmission est à la baisse, même si elle demeure élevée. Jeudi, la région a rapporté 116 nouveaux cas et 2 décès, franchissant ainsi le cap des 200 morts depuis le début de la crise. C'est très probable que cette hausse que l'on vit maintenant soit due à des rassemblements privés, évalue la directrice régionale de la santé publique, la docteure Liliana Romero. On sait que pendant la période des fêtes, il y a eu des rassemblements, que ce soit familiaux ou amicaux. On sait qu'il y a eu des manquements au niveau du respect des consignes, dit-elle, et c'est difficile à quantifier. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va faire, où c'est que ça va nous mener. Il y en a encore beaucoup qui comprennent pas, puis qui sont pas capables de comprendre la réalité. À part ça, système de communication d'urgence, le ministère de la Santé, tanné des ratés de Renir. Les ambulanciers testent de nouveaux appareils cellulaires en cas d'urgence. Alors, c'est des nouveaux téléphones cellulaires en cas d'urgence. Les ambulanciers de 5 régions de Québec ont déjà annoncé utiliser les nouveaux cellulaires de marque Sonin pour contourner les problèmes de sécurité du réseau de communication d'urgence du gouvernement du Québec. On n'aura plus de détails là-dessus. C'est évident que quand il y a quoi de nouveau qui arrive, il faut s'ajuster. C'est comme à la ville de Québec, là, il y a plusieurs petits ajustements qu'il faut faire aussi pour l'amélioration des technologies de communication. On parle ici de COVID-19, jusqu'à 300$ pour un test afin de rentrer au pays. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Laurie Cormier, une jeune femme de 20 ans qui arrivait de Philadelphie aux États-Unis, a présenté sur son cellulaire son résultat de test négatif à la COVID aux agents frontaliers de l'aéroport Trudeau à Montréal jeudi. Des voyageurs se sont conformés sans tracas à la mesure qui entrait en vigueur jeudi de présenter un résultat négatif à la COVID en arrivant au pays et appuie cette décision malgré les coûts parfois onéreux des tests à l'étranger. Alors, c'était difficile de décider si je partais ou non, mais ceux qui sont allés en voyage, ben c'était recommandé de pas y aller. T'sais, à quelque part, là, j'en connais un qui y était, moi, puis j'ai négocié avec lui pour une commandite, là. « Oh, je prends l'avion, puis je m'en vais en Floride. » Tu sais, puis pendant ce temps-là, sa gang qui s'occupe de sa compagnie, ben, ils ont joué au Grinch. Ils n'ont pas voulu aider. Lui, il était d'accord pour aider le monsieur, là. Il est peut-être encore en Floride, puis il m'écoute peut-être un matin, là. Je sais pas. Je le salue, entre autres. Sauf que la compagnie, tu sais, était comme sur l'automatique, là. J'ai eu l'impression que c'était ça. Sauf que ceux qui vont en Floride, ben, faut qu'ils payent, là, pour, c'est normal, ça coûte 300$, mais coudonc, si ça peut empêcher d'autres personnes d'être contaminées, parce qu'eux autres, ils vont probablement l'attraper là-bas, plusieurs l'attrapent en s'en allant là-bas, parce que les éclosions aux États-Unis, c'est incroyable, là. On se fera pas de cachette. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention de ce 8 janvier 2021? Il y a une autre année de passé, puis je pense qu'on s'en va vers des meilleures nouvelles. Je pense que l'année 2021 va probablement être meilleure que l'année 2020 qui va être à oublier. Couvre-feu, les policiers de Québec craignent d'être débordés pour s'assurer que les citoyens respectent bien le couvre-feu à partir de samedi soir. Le service de police de la ville de Québec devra impérativement ajouter des effectifs, a prévenu la fraternité des policiers. Est-ce que les paliers de gouvernement vont aider la ville de Québec? Parce que là, ça va engendrer des fonds puis des coûts incroyables. Est-ce qu'on va engager des agents de sécurité aussi pour aider les policiers pour que ça coûte moins cher, pour que la facture soit moins salée. Alors, c'est toutes sortes de questions comme ça. Alors, on y reviendra en détail pour vous en parler. Vous êtes à l'antenne de RadioFiatLux.tk. On va tomber bientôt en balado-diffusion vers 9h, le temps que je déjeune, que je retourne mes appels pour la remise des bons alimentaires du 24e réveillon de Noël de l'abbé Gérard Tremblay. C'est Georges Fernand Poirier qui vous souhaite une très belle journée et profitez-en pour prendre de l'air parce qu'il fait beau. Avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Et moi, je vous souhaite une belle journée, là. Lâchez pas la patate, surtout, là. Faut pas se décourager, surtout. On va passer à travers, absolument.
cueillir, j'ai cherché des nids. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nids. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. Je lui marchais sur l'aile, la lui rompit. Au chant de la louette, je veille et je dors. J'écoute la louette et puis je m'endors. Au chant de la louette, je veille et je dors.
Et oui, vous écoutez Georges Fernand Poirier à la radio et les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Anglo, franco et québécois. Et je vous souhaite un beau vendredi. C'est le 8 janvier 2021.
On the ladder of my life, Puis toutes les autres le pile sa tête. Certains ont le pied tellement pesant qu'ils en écrasent même les survivants. De cette façon-là, ils sont certains que ça va leur faire bien plus de foin. On regarde les jeunes, on regarde les vieux, puis on se demande qui c'est qui est le mieux. Quelle différence qu'il y a dans le fond, c'est tout le même troupeau de moutons. Problème de drogue, d'économique, l'un charge du pot, l'autre charge du fric. Qu'on le mette en banque, qu'on le roule en joint, ben du foin, c'est toujours du foin. Le foin se fait plus rare, tout le troupeau court sur le même bord. Il y a tellement de marde d'accumuler qu'ils trouvent rien d'autre que du fumier. Fait que là, tout saute dans la machine, on crie au burn, on assassine. Les seuls qui veulent rien savoir, ce sont les braves petits moutons noirs.
Vous êtes dans l'émission GFP en direct sur radiofiatlux.tk. radio indépendante expérimentale du centre-ville de Québec. La bass puis la guitare est bonne là-dedans. Les paroles, ben je parle de la bass puis de la, des accords, de la musique, le montage studio de tout ça, c'est bon, hein? La bonne bass. Avec un Québécois qui s'appelle Gilles Valiquette. Un artiste que j'ai tout le temps aimé, Gilles Valiquette, depuis longtemps. Et il aime beaucoup les Beatles comme moi aussi.
so sleep, silent angel, go to sleep.
Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love.
C'est bon, les Hollies, un beau souvenir. The Air That I Breathe, c'est un beau souvenir qu'on faisait jouer. On faisait jouer à radio, là. Ça a tout le temps été bon, ça a tout le temps été un hit numéro un. Maintenant, on va écouter une toune d'une chanteuse, croyez-le ou non. J'étais sur le balcon avec un ami. Et à ce moment-là, je demeurais sur l'avenue, la rue de la Falaise à Beauport. On était chez un ami sur le balcon dehors, la grosse maison. Tout d'un coup, il y a une Mercedes noire Benz qui entre dans notre cour, dans l'entrée de la cour où nous étions. Et la madame cherchait une rue, elle m'a demandé, oh, je m'en vais à telle place, elle était dans le bout de la rue de la Falaise à Beauport. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Alors, je descends. On était sur la véranda, alors je vais la voir à son auto. D'un coup, qui je vois apparaître dans la Mercedes noire, foncée en tout cas? Ginette Renault. Alors, j'ai dit à Ginette, bon, cherchez telle rue, c'était à telle place, c'était pas loin. Mais j'ai eu le plaisir de lui dire que, ayant été animateur de radio longtemps sur plusieurs stations, j'ai dit, ça me fait plaisir, Ginette, de te dire que j'ai fait jouer tes disques souvent à la radio. Puis je suis content de te rencontrer, puis j'y ai donné la main. Alors, on va écouter, c'est un petit souvenir comme ça. Ça fait longtemps, mais tu t'en rappelles longtemps. Une rencontre avec Ginette Renault en personne. Elle nous a tout le temps fait des belles tunes. Vous êtes dans GFP en direct.
On exagère, et oui, on exagère. On en onde depuis tantôt.
Allô, Radio X.
Oui, bonjour. On n'a pratiquement pas entendu notre musique traditionnelle à la radio à Québec cette année, dans toutes les stations. C'était de l'anglais.
Ah ouais, j'ai pas remarqué ça.
Ben, moi, j'ai remarqué ça.
Okay.
Nos grands-pères, là, ceux qui sont plus âgés, là, on se souvient de la radio dans le temps, comment c'était plaisant à Noël, c'était tout direct partout.
Ouais, ben ça commençait souvent là, dans le coin du fin novembre, mm-hmm. début décembre, là, aussitôt qu'on commençait à monter les sapins, là, la musique de Noël.
Les animateurs, ils prenaient des appels en direct toute la nuit. Chaque station de radio, il y avait des gens qui étaient là. Peut-être que les gens gagnaient moins cher, mais maudit, c'est plate la radio dans le temps des fêtes. À part Radio-Canada, c'est quoi qu'il y a? Puis Radio Fiat Lux, c'est quoi qu'il y a?
On avait ici le Noël de Pee-Wee, vous l'avez pas écouté?
Ouais.
Ben moi, je pouvais pas. Je faisais le réveillon de Noël de la baie Tremblay sur Radio Fiat Lux.
Ben ouais.
Said you give me love, but you never told me about the fire.
plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessus du vent. On n'imagine plus la terre que comme un petit grain de sable dans l'univers. Et de plus en plus terre à terre, car je m'enterre tranquillement, ne croyant plus aux anges, voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent.
Bonjour, ici Georges Fernand Poirier. Bienvenue dans la chronique GFP de ce 17 juin 2014. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps. Mon petit cadeau personnel à vous autres pour la Saint-Jean-Baptiste. On va retourner, on va y aller brièvement avec ce qui s'est passé en Amérique du Nord, ben, plus précisément en Nouvelle-France. Et ça va être intéressant, ce petit voyage-là qu'on va faire ensemble avec les dates et tout ça, ça va être intéressant. Mon petit cadeau pour vous autres, pour la fête nationale des Québécois qui va se fêter prochainement et le beau temps qui est arrivé en plus de ça. Alors, on va y aller rapidement. Avant la Nouvelle-France, 35 000 ans avant Jésus-Christ, arrivée des premiers Asiatiques en Amérique du Nord à travers le détroit de Béring, alors un isthme. Vers 2400 avant Jésus-Christ, en provenance de la Sibérie, les Inuits occupent l'Arctique canadien. 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique aux îles Lucayes. Aujourd'hui, on appelle ça les îles les Bahamas. La Nouvelle-France de 1534 à 1760. Alors, l'explorateur Jacques Cartier, en 1534, qui prend possession du Canada au nom du roi de France, l'année suivante à son second voyage, il se rendra jusqu'à l'île de Montréal. En 1542, sur ordre du roi Roberval, vient au Canada avec mission de fonder une colonie. Le froid, la famine et la maladie l'obligeront à rentrer en France l'année suivante. En 1581, des marchands français organisent des expéditions à la recherche de fourrures dans le golfe du Saint-Laurent. Ces expéditions s'échelonneront jusqu'en 1584. En 1600, Pierre de Chauvin de Tonnetuy fonde un comptoir à Tadoussac. site stratégique pour la traite des fourrures, avec les Montagnais. Environ 25 000 Amérindiens vivent dans les limites du Québec d'aujourd'hui. 1604, fondation de Port-Royal en Acadie par Demont. 1607, le 14 mai, la Compagnie de Londres fonde Jamestown en Virginie, premier établissement anglais sur le continent nord-américain. 1608, le 3 juillet plus précisément, on va fêter ça bientôt, Samuel de Champlain fonde Québec, l'établissement. L'établissement compte 28 personnes au cours de l'hiver, de 20 à 28 hommes meurent. 1609, Champlain conclut une alliance avec la nation Huron. Il fera plusieurs voyages d'exploration jusqu'en 1613. 1613, les colons anglais de la Virginie, dirigés par Argyle, détruisent les établissements français à Port-Royal en Acadie, l'actuelle Nouvelle-Écosse, et empêchent la colonisation française au Maryland. En 1615, arrivée de la communauté des Récollets. 1617, Louis Hébert, le premier agriculteur de la colonie, s'établit à Québec avec son épouse, Marie Rollet et leurs trois enfants. 1620, l'une des filles de Louis Hébert et de Marie Rollet donne naissance au premier enfant à survivre dans la colonie. Les Pilgrim Fathers, partis d'Angleterre sur le Mayflower, fondent Plymouth au Massachusetts, premier véritable établissement européen aux États-Unis. 1625, arrivée des Jésuites. On sait qu'ils ont joué un rôle très important, les Jésuites, au Québec et partout dans le monde. 1627, la Nouvelle-France compte un peu moins de 100 habitants, dont moins d'une douzaine de femmes. Le cardinal Richelieu fonde la Compagnie des Sans-Associés, vouée au peuplement de la colonie. 1629, en juillet, les frères Kirk, corsaires à la solde de l'Angleterre, mettent le siège devant Québec. Le 24, Champlain doit capituler. Il quitte la colonie avec tous les officiers et administrateurs. 60 des 80 colons, de même que les Récollets et les Jésuites. Les Anglais occuperont Québec pendant 3 ans. 1632, traité de Saint-Germain en La Haye. L'Angleterre restitue à la France la Nouvelle-France et l'Acadie. 1634, sur les ordres de Champlain, le sieur Laviolette fonde Trois-Rivières. 1635, fondation du Collège des Jésuites à Québec. En 1749, le Suédois Peter Kalm en parlera avec admiration. Mort de Champlain le jour de Noël. 1636, population de la Nouvelle-France, 400. 1639, arrivée des Ursulines et des Hospitalières. On va fêter d'ailleurs l'arrivée des Ursulines en septembre. Et les Ursulines et les Augustines. En 1641, le Jésuite Charles Rembrandt, au Rembrandt, atteint le site de Sault-Sainte-Marie. Première guerre franco-iroquoise, elle durera 25 ans. En 1642, le 17 mai, fondation de Ville-Marie, Montréal, une ville missionnaire par un laïc dévot, Paul Chaume-Days de Maisonneuve. 1643, le 9 juin, les Iroquois commencent à harceler la petite communauté de Montréal en se livrant à une guerre d'embuscade. Ils tuent 5 colons, mis sur pied de la Confédération de Nouvelle-Angleterre, formée par les colonies anglaises de New Haven au Connecticut et de Plymouth au Massachusetts. 1645, plus précisément le 6 mars, les Sans-Associés cèdent leur monopole de commerce à la communauté des habitants de la Nouvelle-France. Pour la première fois, le grand commerce de fourrures va se pratiquer sous la direction pour le profit direct des commerçants établis dans la colonie. Cette communauté est à l'origine des grandes familles commerçantes du régime français. 1647, les propriétaires de navires sont tenus de transporter un immigrant par tonneau de fret. Arrivé dans la colonie du premier cheval à l'usage exclusif du gouverneur Montmagny. 1653, le 22 septembre, Maisonneuve revient de France avec 100 soldats engagés pour défendre Montréal contre les Iroquois. À bord du navire se trouve Marguerite Bourgeois, venue pour ouvrir une école. Elle écrit qu'à Québec, tout est si pauvre que cela fait pitié. À son arrivée à Montréal, elle ne trouve pas d'enfants d'âge scolaire à cause de la forte mortalité infantile. 1654, l'Acadie passe aux mains des Anglais jusqu'en 1667. 1655, les Iroquois signent avec les colons de Montréal un traité de paix momentané. 1657, Radisson et Desgroseilliers découvrent la haute vallée du Mississippi et atteignent le Minnesota, arrivée des Sulpiciens à Montréal. 1658, Montréal, Marguerite Bourgeois inaugure sa première école et fonde la Congrégation de Notre-Dame, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. 1659, 200 personnes s'embarquent à La Rochelle en direction de la Nouvelle-France. C'est l'effort le plus considérable fait à ce jour pour peupler la colonie. Un bon tiers meurt en mer et on débarque à Québec. On ne débarque à Québec que les malades, ce qui a pour effet d'introduire la petite vérole dans la colonie. En 1660, au printemps, Adam Dollard des Ormeaux et ses 16 compagnons partent en expédition sur l'Outaouais pour combattre les Iroquois. Une quarantaine de Hurons et 6 Algonquins se joignent à eux et au pied des rapides du Lonceau, ils ont à peine le temps de remettre en état un vieux fortin abandonné qu'ils doivent faire face à 800 assiégeants. Après 3 jours de combat, les 17 Français sont tués. Panique générale à Québec, 6 Iroquois sont capturés, torturés et exécutés sur le bûcher. 1663, création du Conseil souverain, premier appareil politique donné à la Nouvelle-France, qui est élevée au statut de province française. 1665, premier recensement, 3215 habitants, le gouverneur français envoie les filles du roi, orphelines élevées aux frais du roi, et oblige les célibataires à choisir une épouse parmi elles. Jusqu'en 1673, il en viendra 900. Jean Talon est nommé premier intendant de la colonie. Dynamique, enthousiaste et débrouillard, il veut étendre ici le royaume de France. Malgré le peu d'intérêt du roi pour la colonie, il travaillera avec ardeur à son développement. Arrivée du régiment Carignan-Salière. 1666, une armée de 1300 hommes défait les Iroquois. Le traité qui s'ensuit reconnaît la souveraineté du roi de France et assure à la colonie 16 années de développement pacifique. 1667, en février, se tient un carnaval particulièrement joyeux à Québec après des années de guerre contre les Iroquois. Arrivée de 14 chevaux, la colonie compte 3107 bovins. Le ministre Colbert souhaite que les Canadiens et Indigènes ne fassent qu'un même peuple et un même sang. 12 ans plus tard, le roi demandera à l'intendant Duchesneau de faire en sorte que les Indigènes s'établissent parmi les Français. 1668, fondation par les Jésuites de la mission de Sault-Sainte-Marie. 1670, bailleur de fonds de Radisson et des Groseilliers, les Anglais forment la compagnie de la Baie-d'Hudson, une société qui établit pour l'Angleterre un droit de commerce sur l'arrière-pays de la Nouvelle-France. 1672, Frontenac devient gouverneur de la Nouvelle-France. Avant de quitter la colonie, Talon procède à une grande distribution de seigneuries, 46, un nombre jamais atteint en une seule année. 1673, Louis Joliette et Jacques Marquette explorent les cours du Wisconsin, du Mississippi et de l'Illinois. 1682, La Salle descend le Mississippi jusqu'à son embouchure et prend possession de cet immense bassin au nom du roi de France. L'Empire français en Amérique s'étend depuis Québec jusqu'au delta du Mississippi. 1687, épidémie de rougeole dans toute la colonie. Uniquement à Sillery, 100 Amérindiens en meurent. 1688, population de la Nouvelle-France, 10303. La ville de Québec compte 1400 personnes en 1688. 1689, dans la nuit du 4 au 5 août, des Iroquois font une attaque surprise contre l'établissement de la Chine. Les assaillants massacrent 24 personnes et détruisent une cinquantaine de fermes. 72 autres personnes sont portées disparues. 1690, l'amiral Philippe assiège Québec. Frontenac répond à son émissaire, « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Frontenac l'emporte sur les soldats anglais, affaiblis par une épidémie. L'Acadie est reconquise par les Anglais. 1692, Madeleine de Verchères, âgée de 14 ans, échappe aux Iroquois qui la poursuivent en se réfugiant dans le fort de Verchères, propriété de son père. Montée sur le bastion, chapeau de soldat sur la tête, elle va ça et là, laissant croire aux Amérindiens que de nombreux soldats occupent le fort. Puis le coup de canon qu'elle tire sur eux les fait se disperser. 1697, avec le traité de Ryswick, la France recouvre l'Acadie et la Baie-d'Hudson. 1701, signature de la paix à Montréal avec les 5 nations iroquoises. 1711, on passe tout l'été sur le qui-vive dans la crainte de voir les Anglais attaquer à nouveau la Nouvelle-France, cette fois-ci par le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, une tempête projette les vaisseaux de Walker sur les rochers de l'île aux œufs, à 460 km en aval de Québec, évitant ainsi à la colonie une nouvelle attaque par les Anglais. En 1713, signature du traité d'Utrecht, désastreux pour la France, l'Angleterre s'empare des postes des avant-postes de la colonie, obtenant Terre-Neuve, l'Acadie, la baie d'Hudson et un protectorat sur les Iroquois. La Nouvelle-France est réduite à un long corridor sur les rives du Saint-Laurent, mais elle connaîtra la paix jusqu'en 1744. 1714, une délégation de 8 hommes et femmes de Québec vient protester devant le Conseil souverain contre le prix exorbitant et la mauvaise qualité du pain. Les conseillers trouvent les échantillons apportés pesants comme de la terre et de la misme, couleur, plat, non, levé et aigre. 1715, dans un mémoire au duc d'Orléans, Ruette d'Auteuil note « Les Français qui habitent le Canada sont des corps bien faits, agiles, vigoureux, jouissant d'une parfaite santé, capable de soutenir toutes sortes de fatigues et belliqueux. » 1716, de crainte d'être à nouveau attaqué par les Anglais, on entreprend des travaux de fortification à Montréal et à Québec. À Montréal, on décide d'entourer la ville d'un mur de pierre flanqué de bastions, sur le site appelé aujourd'hui Faubourg Québec. 1718, début de la construction de la forteresse de Louisbourg, île du Cap-Breton, ainsi nommée en l'honneur de Louis XIV, de Louis XV plutôt, fondation de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. 1720, envoyé par le roi comme observateur en Nouvelle-France, le père Charlevoix trouve à Québec un petit monde choisi où il ne manque de rien, de ce qui peut former une société agréable. En 1721, population de la colonie, 24 951 habitants, Montréal, et le 19 juin à Montréal, à l'occasion de la fête Dieu, un arquebusier fait feu sur le toit de la chapelle de l'Hôtel Dieu. 171 maisons brûlent. En 1735, de Québec à Montréal, sur la rive nord du Saint-Laurent, on inaugure le chemin du roi. Un chantier qui durera 4 ans et comprenant 13 ponts. Le trajet d'une ville à l'autre avec un seul cheval se fait désormais en 4 jours. 1738, début de la production aux forges de Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. 1739, les pots de castor constituent 70% de la valeur des exportations. En 1744, dans son récit de voyage en Nouvelle-France, on ne parle plus purement notre langue. En 1756, Montcalm écrira « J'ai observé que les paysans canadiens parlent très bien le français. » L'année suivante, le navigateur de Bougainville ajoute « Ils parlent avec aisance. Leur accent est aussi bon qu'à Paris. » 1745, prise de la forteresse de Louisbourg par les Anglais, rendue en 1748 à Québec, de crainte d'une nouvelle invasion, on entreprend la construction d'une enceinte permanente. En 1746, des corsaires anglais dévastent des installations de pêche françaises dans le golfe du Saint-Laurent. En 1748, la garnison de Québec ne compte que 169 soldats. La paix dès la chapelle rend Louisbourg et l'île du Cap-Breton à la France. 1749, voyage en Nouvelle-France du Suédois Peter Kalm. Les hommes sont extrêmement polis, observe-t-il. Tout le monde est monsieur ou madame. Le paysan aussi bien que le gentilhomme, la paysanne comme la plus grande dame, les habitants de la campagne sont toujours d'humeur joyeuse et gaillarde. Les gens de distinction en général ont bien plus le goût pour l'histoire naturelle et les lettres que dans les colonies anglaises où l'unique préoccupation de chacun semble être de faire une fortune rapide. En 1751, reçu par le gouverneur de Trois-Rivières, l'ingénieur Franquet raconte « Il y a une table de vin couvert servi avec la profusion et la délicatesse des meilleures provinces de France ». En 1752, 2 incendies en 2 jours rasent Trois-Rivières. Le soldat Pierre Baudouin, dit Cumberland, avouera avoir mis le feu pour se venger. 1754, la Nouvelle-France compte 50 000 habitants et la ville de Québec 8 000. Les colonies anglaises en Amérique du Nord comptent environ 1 500 000 habitants. En 1755, en juillet, le Conseil exécutif de la Nouvelle-Écosse prend la décision unanime de déporter les Acadiens avant la fin de l'année sous les ordres du gouverneur anglais Lawrence. 7 000 Acadiens partent pour l'exil. 1756, le marquis de Montcalm s'empare du fort anglais d'Oswego. La France expulse l'Angleterre de la région des Grands Lacs. En 1757, été et automne de misère, mauvaise récolte, navires saisis par les Anglais, famine, épidémie de typhus. En hiver, faute de vivres, on mange du cheval pour la première fois dans la colonie. 1758, victoire de Montcalm contre Abercrombie au fort Carillon. 26 juillet, capitulation de la forteresse de Louisbourg face aux Anglais, dirigée par Jeffrey Amherst, rue qui existe d'ailleurs à Montréal. En 1759, en juin, le général Wolfe entreprend le siège de Québec avec une flotte de 39 000 hommes. 13 septembre, bataille des plaines d'Abraham et défaite des armées de Montcalm. Wolfe et Montcalm sont tués. 17, à midi de Ramsey, remet la ville de Québec au général Townshend. Un nouveau régime de 1760 à 1867. En 1760, au printemps, le chevalier de Lévis tente une ultime offensive contre l'armée de Murray, qui occupe Québec. 28 avril, Murray attaque les troupes françaises à l'issue d'une bataille de 3 heures. Les Anglais doivent battre en retraite, abandonnant morts et blessés. Fort de ce succès, Lévis décide d'entreprendre le siège de Québec. Mais en mai, une flotte anglaise de 18 000 hommes arrive devant la ville. Sans secours de la France, Lévis doit lever le siège. La flotte anglaise fait alors voile vers Montréal. Avillon s'amène en même temps par le Richelieu. Et Amherst par le lac Ontario. Le 8 septembre, le gouverneur Vaudreuil signe la capitulation de Montréal et il s'en est fini de la colonie française. Au printemps, en 1761, au printemps, la vie économique, toujours fondée sur le commerce des fourrures, reprend son cours, mais les fourrures devront être désormais expédiées en Angleterre plutôt qu'en France, ce qui annonce la ruine de la classe commerçante canadienne-française. Une nuée d'aventuriers anglais s'abat sur la colonie. Et selon le gouverneur James Murray, il y constitue le rassemblement d'hommes le plus immoral que j'ai jamais connu. Ils ont tous leur fortune à faire et je crains que peu soient scrupuleux quant aux moyens si le but peut être atteint. L'économie tombe sous le contrôle anglais, la bourgeoisie française quitte le pays, la Nouvelle-France est décapitée de son élite économique. En 1763, le 10 février, par le traité de Paris, la France cède à l'Angleterre le Canada, l'Acadie et la rive gauche du Mississippi. 7 octobre, par une proclamation royale, Georges III démembre la Nouvelle-France. Le territoire laurentien est désormais appelé Province of Quebec. Ses frontières sont considérablement réduites. Le roi instaure des institutions politiques conformes à la tradition britannique. La Commons Law remplacera le Code civil français. Aucun catholique ne pourra aspirer à des fonctions administratives sans renier sa foi. Or, toute la population française est catholique. 1764. En octobre, les Britanniques à Québec demandent l'établissement d'une assemblée législative choisie parmi les seuls sujets protestants. 29. 94 commerçants canadiens, c'est-à-dire francophones, ça adresse une pétition au gouvernement britannique protestant contre l'imposition d'un système de gouvernement inacceptable. 1765. Population de la colonie, 70 000 habitants. 8900 à Québec et 5800 à Montréal. Le séminaire de Québec devient collège classique. 1766, les Anglais autorisent le retour de Mgr Bryan, consacré en France. Il prêchera la soumission aux nouvelles autorités. 1767, les Sulpiciens ouvrent à Montréal le collège Saint-Raphaël, qui deviendra en 1806 le collège de Montréal. 1768, pour permettre la colonisation vers l'ouest, l'Angleterre enlève le territoire de l'Ohio aux Indiens. 1774, pour consolider son entreprise sur le Canada et dissuaser les Canadiens, c'est-à-dire français, c'est-à-dire les francophones, de se joindre à la poussée indépendantiste de ses colonies du Sud, les futurs États-Unis, l'Angleterre octroie l'acte de Québec, une constitution souvent mal organisée, qui engage plutôt le combat avec l'armée anglaise. Ils gagnent à Saint-Denis, mais perdent à Saint-Charles et à Saint-Eustache. La répression ne se fait pas attendre. Des villages brûlés, la population molestée, des femmes et des enfants jetés hors de leur demeure à l'approche de l'hiver. La Chambre et l'Assemblée dissoutent et Colborne nomme un conseil spécial chargé d'administrer le Bas-Canada jusqu'en 1841. 1838, en février, les Patriotes dirigés par Robert Nelson proclament la République du Bas-Canada. En novembre, ils attaquent les troupes anglaises à La Colle et à Oldeltown, mais sans succès. La seconde répression est encore plus dure. D'autres villages sont mis à sac et incendiés. Près d'un millier de personnes sont arrêtées, deux fois plus qu'en 1837. Parmi elles, 108 sont traduites devant les tribunaux, 58 seront déportées et 12 pendues à la prison du Pied du Courant à Montréal, dont Chevalier de Lorimier, qui, la veille de sa mort, affirmera dans une lettre sa faveur indépendantiste. L'Angleterre inquiète envoie Lord Durham avec mission d'enquêter. En 1839, après un séjour de 6 mois, Durham présente un rapport conseillant des mesures pour établir la paix. Son diagnostic est clair. L'origine des problèmes du Bas-Canada n'est ni politique, ni administrative, mais vient de la coexistence forcée de deux nations distinctes dans un même État. Il faut donc, 1. Assurer par l'immigration une majorité anglaise et loyale, 2. Angliciser les Canadiens français qui, dit-il, n'ont aucune chance de survie dans une Amérique anglo-saxonne. 3. Établir la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire l'obligation pour les ministres de quitter le pouvoir lorsque les députés leur retirent leur confiance. Le gouvernement britannique repousse cette dernière suggestion. En 1840, pour mettre les Canadiens et Français, c'est-à-dire les francophones, en état d'infériorité politique, Londres sanctionne la loi de l'Union qui réunit les deux Canadas, désormais appelés le Canada uni, sous un seul parlement, et fait de l'anglais la seule langue officielle. Mise en commun des dettes, celle du Haut-Canada, de l'Ontario, qui est 13 fois plus élevée que celle du Bas-Canada. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui disent que l'Ontario nous doit beaucoup d'argent. Et bien que le Bas-Canada soit plus peuplé que le Haut-Canada, il serait représenté par le même nombre de députés, soit 42. Grave problème de surpeuplement rural, compliqué par une immigration britannique massive entre 1840 et 1850. Environ 40 000 Canadiens français émigreront aux États-Unis, 900 000 entre 1840 et 1940. Alors, c'est Georges qui vous souhaite de belles vacances, une très belle fête nationale des Québécois. On va se retrouver d'ici quelques semaines. Je vais prendre un petit break. En vous souhaitant un très bel été, amusez-vous bien, soyez prudents à la plage et partout. Georges Fernand Poirier, chronique GFP, une présentation de GFP Productions Québec. Pour information, Georges avec un S, Fernand Poirier, @ymail.com. Bon été tout le monde!
Alors, c'est un petit extrait souvenir sur l'histoire du Québec de façon abrégée, là, un genre de petit résumé. Je vous souhaite une belle journée et soyez là de 16h à 18h pour une autre édition de GFP en direct avec les meilleurs succès radio de tous les temps et toutes sortes d'affaires. Bonne journée. Habillez-vous, c'est que la température commence à geler, là. Alors, c'est on tombe dans la période glaciaire de la saison. À 16h ce soir, bye bye.
qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre. Se souvient de l'odeur. Il cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-t-il quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le tout de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright, man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé. Si tu veux qu'on dise au juste, on a tombé en amour encore une fois de plus. Avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus. Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Vous êtes dans GFP en direct, la radio indépendante expérimentale, en direct du centre-ville de Québec.